France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui,
Francis Allais de Montpellier est botaniste des régions tropicales.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans l'immensité de la forêt amazonienne, ce matin de l'année 1986 est marqué par la première ascension du radeau des Cimes, cette structure impressionnante qui ressemble à une énorme étoile de mer rouge. Enfin prête à être hissée au-dessus des arbres, le silence de la forêt est brisé par le ronronnement du moteur du dirigeable. L'opération débute sous le commandement de Francis Allais qui, malgré ses nombreuses années dans les études botaniques, se sent comme un novice face à l'ampleur de ce projet. Le dirigeable s'élève doucement dans le ciel, tirant le radeau qui commence alors son ascension vers la canopée. Les pontons pneumatiques soigneusement attachés stabilisent la structure. Francis, maintenant sur le radeau, marche prudemment sur les filets, ses yeux balayant l'horizon. Face à lui, un océan vert s'étend à perte de vue. Un spectacle à couper le souffle. L'exploration débute immédiatement. Les scientifiques se dispersent, recueillant des échantillons de feuilles, photographiant des insectes, enregistrant les chants des oiseaux. Francis, absorbé par ses observations, note chaque détail dans son carnet de terrain. À la fin de la journée, le radeau redescend lentement vers le sol de la forêt. Francis Allais se tient légèrement à l'écart, regardant le radeau. « C'est ce que j'ai fait de plus amusant dans ma vie, sans aucun doute », confie le botaniste à un collègue. Alors que la nuit tombe sur la forêt, cette journée marque le nouveau chapitre d'une vie déjà bien remplie, consacrée aux arbres. Cette vie, c'est la vôtre, Francis Allais. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints cet après-midi sur les branches de la Terre au carré. On va passer une heure avec vous pour explorer votre vie de botaniste qui commence le 15 avril 1938 et quatre jours avant votre naissance, le 11 avril 1938. Voilà ce que l'on pouvait entendre aux actualités françaises.
Nous allons maintenant demander... M. Bournois, si il va bientôt repartir pour ses lointains pays.
Oui, je pense repartir au début du mois de juin ou vers le 10 juin plus tard pour tâcher de faire les sources de l'Amazone et en tout cas la partie du haut d'Amazone que je n'ai pas pu réaliser la première fois. On a un tel plaisir, une telle satisfaction profonde à vivre dans ces régions et à vivre à côté de ces indigènes que vraiment l'appel qu'ils vous font, même s'il vient de très loin, nous l'entendons toujours et nous sommes toujours prêts à repartir.
Je me contente de dire bon voyage et bonne chance.
Voilà, archives de 1938 avec l'anthropologue français Bertrand Flournoy, spécialiste de l'Amazonie péruvienne, qui revenait, disait le journaliste d'ailleurs, du pays des têtes coupées. Lorsque vous naissez cette année-là, Francis Allais, la forêt amazonienne est encore loin de votre berceau, mais les arbres, eux, sont près de vous dans cette région. Vous laissez la Seine-et-Marne, c'est ça ?
Oui, Seine-et-Marne.
Il y a une forêt pas loin ?
Forêt de Fontainebleau,
oui.
Et puis il y en avait d'autres plus proches. Enfin, le terrain de mes parents était déjà boisé, donc les arbres, pour moi, c'est des amis depuis le début.
Donc vous vivez vos premières années sous l'occupation, dans cette maison, jardin, forêt, c'est ça ?
Une vieille maison de Seine-et-Marne, et puis un bout de potager, et puis une forêt.
Ouais.
Un bout de forêt, un quart d'hectare, je crois.
Ouais.
Mais pour moi, à l'époque, c'était gigantesque.
C'est ça, c'est votre terrain de chasse, déjà.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous grimpez déjà
dans les... Je grimpe aux arbres.
Ouais. Déjà tout petit ?
Je trouve un petit arbre qui me permette de grimper dans un très très grand.
Et vous avez quel âge quand vous commencez à grimper dans les arbres ?
6 ans.
6 ans. Vos parents les laissent faire sans problème ?
Bien sûr.
Ils ne sont pas impressionnés ?
Mais non, mais ils m'encouragent.
C'est vrai, ils n'ont pas peur.
Ils ont encouragé tous mes frères et sœurs.
Ouais.
C'est normal. C'est ce qu'on devrait faire maintenant avec les gamins.
Donc c'est votre premier contact avec, avec les arbres. Et ça suscite déjà votre curiosité, au-delà du jeu, parce qu'on imagine évidemment ce terrain de jeu extraordinaire. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans votre relation avec les arbres ou pas encore ?
Non, je crois que c'est trop tôt. C'était juste le terrain de jeu, en effet. L'expression est bonne.
À quel moment vous commencez vraiment à être sensible alors à ce qui vous entoure, à cette nature ? Parce que votre père était agronome, c'est ça ?
Et mon père était agronome, oui.
Donc il s'occupe du jardin ?
Oui, on a très bien mangé pendant toute la période de l'occupation et on a même aidé les voisins. Donc j'ai gardé une grande admiration pour ce qu'on peut faire avec un bout de terrain bien mené.
Et donc, vous êtes sensibilisé quand même à ces questions grâce à ça ?
Non, c'est trop tôt. Je me suis intéressé d'abord aux animaux. Il faut dire qu'à l'époque, les plantes J'allais dire, ça n'existe pas. On s'en servait pour se gagner de l'argent, c'est tout. Que ce soit les légumes pour les manger ou les arbres pour faire du bois de feu et des poutres. Non, ça, les plantes n'intéressaient personne. C'est ça qui...
Ouais.
Ce qui m'a optimiste, c'est que ça a beaucoup changé.
Oui, c'est vrai. Et ça vous intéresse à partir de quand, alors, réellement ?
Quand j'étais étudiant, j'ai commencé à travailler sur les animaux. J'ai même commencé à publier sur des microfossiles du silex, mais qui étaient indiscutablement des animaux. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir une plante pousser chez moi, sur mon balcon. Je ne sais pas qui l'avait mis là. Elle était peut-être venue toute seule.
Mm-hmm.
Je ne m'en suis pas occupé, puisque ça ne m'intéressait pas.
Oui.
Elle s'est débrouillée avec la pluie parisienne, qui apparemment était assez abondante. Et elle a poussé, elle a fleuri, elle a donné des graines. Et l'année d'après, il y en avait dans tous les pots. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça. Parce que si j'avais un animal sur mon balcon d'étudiant, il faudrait que je le nourrisse, que je lui donne à boire, que je récolte ses excréments. Et puis je vais m'y attacher comme un idiot, parce qu'un animal, on s'y attache.
Donc la plante, c'est plus facile à gérer, en fait, c'est ça aussi ?
Mais il n'y a rien à gérer.
Ouais.
Elle faisait tout, toute seule, sans que je m'en mêle.
Elle se débrouille. Ouais. Il y a votre frère Nicolas, quand on lit justement votre parcours dans Les vies heureuses du botaniste. C'est une biographie qui était sortie sous la plume de Laure Dominique Agniel, et qui raconte à quel point ce frère-là, il a joué un rôle majeur aussi dans votre sensibilisation à la biodiversité.
Oui, oui, tout à fait. Et sur l'intérêt envers les tropiques, parce qu'il voyageait beaucoup. Et quand il revenait, il ramenait des graines. Moi, je faisais germer tout ça.
Enfin, oui.
On s'est très bien entendu.
Et un grand-père. Il faut quand même parler de votre grand-père.
Oui, mon grand-père maternel.
Ouais, André Daucher.
Est-ce qu'il avait une origine espagnole ? Je ne sais pas.
En tout cas, il peignait. Il aimait la mer.
Et il aimait la Bretagne.
Et il aimait dessiner la nature.
Et il aimait l'Espagne.
Oui. Et donc, vous êtes dans son atelier tout petit, c'est ça, enfant ?
Oui,
parce
oui,
qu'il décède, vous avez 10 ans, en 1948.
On habitait tout près, rue Vavin, rue Saint-Guillaume, c'était tout près. Je montais de le voir dans son atelier. C'était magnifique, évidemment, un atelier de peintre à l'époque, c'était magnifique.
On va entendre Anne-Marie Chiron, qui était commissaire d'une exposition sur votre grand-père. Cette exposition avait lieu à Lorient en 2005, et voilà ce qu'elle disait de lui.
Il se basait beaucoup sur l'allure de l'arbre. Les arbres le fascinaient totalement, considéraient que c'était quasiment l'aspect de l'arbre qui allait composer le paysage. Donc après, il traduisait la lumière ou l'espace autour de cet arbre, avec le premier plan et l'arrière-plan qui structurait. Mais c'était véritablement le sujet principal. Il donnait une sorte de personnalité extraordinaire aux arbres.
Ça n'a pas dû vous échapper quand même, Francis Allais, de voir tous ces arbres peints par votre grand-père.
Non, ça a eu une influence évidente sur mon activité encore maintenant.
Ouais. Il était qualifié de peintre du vent et des estuaires, donc c'est ça. Alors la Bretagne en particulier.
Ce qu'il passionnait, c'était la Bretagne. Il a d'ailleurs construit une maison avec un atelier en Bretagne. Et c'est là que j'ai passé mes vacances quand j'étais gamin.
Et c'était un véritable marin aussi.
Ah ben il avait un grand bateau.
Oui.
Oui, oui, effectivement.
Et vous êtes parti avec lui en mer ou pas ?
Jamais.
C'est vrai ?
Non, jamais. J'étais trop petit et puis j'étais calme à la maison. C'est une première injustice. Il emmenait celui de mes frères qui était le plus terrible.
Ah oui, c'était pour le calmer un peu ?
Pour le calmer.
De prendre les embruns pour essayer de tempérer un peu son caractère. Parce qu'il vous a aussi transmis ce goût à la fois de la peinture, parce que vous n'êtes pas que botaniste, vous êtes aussi dessinateur et peintre. On en reparlera tout à l'heure. Et ce goût aussi pour la mer, parce que vous avez beaucoup navigué, Francis Allais. Moi, je ne savais pas ça. Je l'ai découvert aussi en consultant les différentes biographies. Vous avez énormément fait de voiliers.
J'ai eu 5 bateaux à la suite.
Ouais.
Et ben voilà, avec mon épouse, on a navigué tout ce qu'on pouvait faire autour de la France.
Ouais. Et donc ce dessinateur grand-père, évidemment, ça aussi, c'était presque dans vos gènes, en tout cas, dans votre parcours, dans cet environnement, en tout cas, d'enfant.
Ouais.
Et ces dessins qu'on peut découvrir, d'ailleurs, dans un livre qui sort, ça s'appelle « La beauté du vivant », chez Actes Sud. C'est l'occasion aussi de s'interroger sur la place de l'esthétique de la nature. Est-ce que la beauté, elle a du sens, à votre avis, dans le monde végétal ? Est-ce que ça dit quelque chose du monde végétal, la beauté ? Ou c'est une notion purement humaine ?
Il y a deux opinions complètement différentes. Moi, je pense que la beauté du vivant, elle est fondamentale. Je mets d'ailleurs au défi les artistes les plus doués, les plus connus, de faire quelque chose d'aussi beau qu'une feuille de tilleul, tout simplement.
Ouais.
Voilà. Il n'y arrivera pas. Impossible. Bon, puis alors il y a ceux, contrairement à nous, qui pensent que la seule beauté dont on doit tenir compte, c'est celle qui est faite par l'homme, c'est-à-dire l'art. Voilà. Mmh. Alors je ne suis pas contre. Simplement, l'art, c'est subjectif. Bon, moi j'aime bien Rembrandt, un autre aime bien Picasso, on a raison tous les deux. Mm-hmm. On va pas se convaincre, ça n'a pas de sens. Donc c'est subjectif.
Et vous êtes de quel côté? Vous, du côté de la beauté de la nature?
La beauté de la nature, c'est pas subjectif.
Ouais. Mais est-ce qu'elle a une fonction dans la nature, cette beauté?
Alors, voilà.
Est-ce que ça a un rôle particulier ou
quand j'étais étudiant, ça n'en avait pas. Ouais. Je me rappelle des enseignants à la Sorbonne qui nous disaient « n'admirez jamais ».
Ah bon? Quelle horreur!
C'est terrible, hein? Oui, oui. Ouais. Bon, j'étais étudiant. Donc
n'admirez jamais la nature?
N'admirez jamais parce que la beauté, c'est futile. Le terme, c'est exactement celui-là. C'est futile. Mmh. C'est bon pour les enfants, pour les débutants, pour les poètes. Poète, quand on est scientifique, c'est une vraie injure. Ouais. Mais
surtout pas dans le domaine de la science, alors.
Alors, c'est indigne d'un vrai scientifique, la beauté.
Et qu'est-ce que vous en pensiez, vous, à l'époque, quand on vous disait ça? Ça vous faisait réfléchir? Vous disiez, il y a un truc qui ne va pas?
Oui, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais enfin, j'étais trop jeune pour réagir.
Ouais.
Dans le fond, le bouquin que vous mentionnez, là, c'est ça. C'est de démontrer que la beauté, d'abord, elle existe, mais ça, tout le monde sait qu'elle existe. Elle existe comme un prolongement de la biologie.
Ouais. Alors, en quoi, justement? Expliquez-moi ça, parce que vraiment répondre à la question. En quoi la beauté a une fonction dans la nature,
Je ne dirais pas qu'elle a une fonction, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai pris des lignées monophylétiques, c'est-à-dire des lignées vivantes, animales ou végétales, mais avec un seul ancêtre remarquable. Il y a un bon exemple, c'est les plantes. Voilà, les plantes, c'est une lignée monophylétique, parce qu'il n'y a eu qu'un seul début à la photosynthèse. Une autre lignée que j'ai beaucoup étudiée, c'est celle des vertébrés. Tous ceux qui ont des vertèbres appartiennent à la même lignée. Bon. Donc une lignée, ça démarre petit, ça grossit, et puis ça se termine, parce que c'est pas éternel. Alors je compare l'esthétique de la base, du milieu et du sommet. À la base, c'est passionnant, c'est les ancêtres. Ils sont passionnants, mais ils sont très laids.
Oui, ah oui. Donc vous leur donnez une qualification, là, quand même, en disant qu'ils sont très laids. En quoi ils sont laids?
Mais je ne peux rien faire de plus que de suivre mon propre sentiment là-dessus. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'unité de mesure de la beauté.
Donc ça reste subjectif?
Non.
Non?
C'est subjectif s'il y avait des gens qui les trouvaient magnifiques. Mais je ne peux pas imaginer ça.
Et donc cette lignée là, chez les plantes, par exemple?
Eh bien, les premières plantes... Bon, on peut s'y attacher, on peut les trouver charmantes, c'est mon cas. Les mousses, par exemple, c'est très très... Mais la vraie esthétique, dans le cas des plantes, ça apparaît vers le milieu de la lignée, au moment où les pollinisateurs interviennent. Alors là, il faut attirer les pollinisateurs, donc il faut des structures très belles. Les plantes n'ont pas d'œil, hein.
Ouais.
Les belles structures, c'est pas pour attirer un partenaire sexuel végétal, puisqu'ils sont immobiles l'un et l'autre. Non, c'est pour attirer l'attention des animaux pollinisateurs.
Donc la beauté entre en jeu.
Ouais.
Pour que ces insectes soient attirés par les plantes.
Voilà, et alors, je trouve ces structures belles également. Donc je partage le goût des insectes pour...
Pour la beauté.
Oui,
donc c'est pas subjectif. Fleurs, ou la beauté des arbres, d'ailleurs.
Ou la beauté des arbres, ou celle des feuilles, ou celle des fruits, des graines, etc.
Ouais. Vous disiez d'ailleurs au moment de l'exposition à la Fondation Cartier, en 2019, autour des arbres, que votre premier rapport, justement, aux arbres a d'abord été esthétique, avant d'être scientifique. Vous êtes posé la question à ce moment-là?
Oui. Mais est-ce qu'il y a
une... Vous avez été touché par...
Est-ce qu'il y a une limite entre les deux? Moi, je crois pas. Alors, je reviens sur la beauté. Vers le milieu de la lignée, les choses laides sont encore là, mais il apparaît des choses très belles. C'est une propriété émergente. Et puis vers la fin, tout ce qui était moche a disparu, il n'y a plus que le très beau.
Ouais. Et donc aussi pour les insectes qui vont être attirés par cette partie-là de la plante.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Si on regarde comment fonctionne un arbre, on voit qu'il n'y a rien qui se passe au hasard. Tout est vraiment à la fois d'une complexité et d'une perfection bouleversante, renversante. C'est de la plus pure beauté, de la beauté fonctionnelle.
L'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher, Francis Allais, la beauté du vivant, donc chez Actes Sud. Francis Allais, c'est votre actualité. On en parlait tout à l'heure de cette notion de beauté. Hein. Vous nous disiez finalement les plantes, elles attirent aussi les insectes parce qu'elles sont belles. Mais est-ce que tous les scientifiques sont d'accord avec ce qui pourrait faire figure presque d'intention de la part de la plante ?
Non, je crois que le fait que les plantes fassent des belles fleurs, pas seulement belles, elles sentent bon aussi, une double ouais. beauté. Pour attirer les pollinisateurs, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a, ouais. a pas de blocage.
Et sur l'intelligence des arbres, alors parce que ça aussi, c'est un grand sujet qui a émergé ces dernières
très,
années.
Très, très récent.
Mais qui avait l'air complètement tabou avant en science. Hein. Parler de l'intelligence des arbres, on vous prenait pour un dingue, non ?
Je ne crois pas que c'était tabou, je ne dirais pas ça. C'était juste inconnu. On n'en parlait pas parce qu'on ne savait rien à son sujet.
Ouais.
Non, ça y est, ça a beaucoup changé.
Ça a changé, mais est-ce que pour autant ça fait un consensus dans la communauté scientifique ?
Attends, le discours scientifique, c'est ça. On émet une hypothèse et on attend que les collègues la jugent et même parfois essayent de la détruire. Mmh. Et donc on raffine les arguments. Et puis la science, c'est quand c'est arrêté, quand tout le monde est content.
Et on en est où, alors, à votre avis, sur cette question de l'intelligence des arbres ?
Il y a quelques...
C'est arrêté ou pas ?
Non, c'est pas tout à fait arrêté, mais c'est tellement récent.
Oui.
Non, je trouve encore des collègues qui ne veulent pas utiliser ce mot d'intelligence.
Il faut laisser le temps de la confrontation, alors, c'est ça, entre les chercheurs ?
Attendez, si on cherche dans le dictionnaire, intelligence, on voit que c'est fait pour nous, pas fait pour les plantes. Il faut avoir un langage oral, un gros cerveau et marcher sur deux pieds. Donc je me dis, bon, ben c'est raté, les plantes ne sont pas comme ça. Mmh. J'ai eu la chance de tomber sur un ami québécois qui m'a dit, mais attention, c'est un être humain qui a rédigé le dictionnaire. Et donc...
Il y a un petit biais dès le départ.
Un petit biais.
C'est ça.
Oui, mais c'est la porte ouverte aux pires exactions, ça, quand on est jugé parti.
Donc il faut changer la définition dans le dictionnaire. En quoi, vous trouvez les arbres intelligents, Francis Allais ? Alors, qu'est-ce qui pourrait caractériser, justement, cette intelligence du végétal ?
Ils sont fixes, n'est-ce pas ? Ça n'échappe à personne. Et ils sont entourés d'herbivores affamés. Il faut qu'ils trouvent des solutions. Et ils les ont trouvées. Une première solution, c'est d'être beaucoup plus gros que l'herbivore. Alors bon, il fait le sacrifice d'une petite branche ou deux, mais ça met pas en danger son avenir. Une autre astuce extrêmement intelligente, c'est de ne pas avoir d'organes vital. Un animal, le matador, il sait très bien, il sait que le cœur, c'est un organe vital. Il n'y a pas ça pour une plante. Pas d'organe vital, c'est très astucieux. C'est totalement décentralisé.
Donc ça laisse plus de chances de survie, en tout cas.
Complètement. D'ailleurs, les plantes, c'est, au point de vue quantitatif, c'est énormément plus que les animaux, êtres humains compris.
Francis Allais, à quel moment vraiment vous décidez de devenir botaniste, de faire ce métier-là ? Est-ce que vous en souvenez ?
Eh bien oui. J'ai commencé, comme je l'ai dit, l'université, par m'intéresser aux animaux, parce que tous mes copains faisaient ça. Et puis c'est très intéressant, les animaux, il faut reconnaître. Et puis, avant même que mes études soient terminées, j'étais devenu botaniste. Voilà.
Et c'est un métier qui attire à l'époque, ou ça suscite plutôt de l'indifférence ?
Non.
Ouais. Donc vous êtes dans une niche, quoi, finalement. Vous choisissez quelque chose qui n'est pas forcément très valorisé ?
Mais je m'en fichais complètement. Ouais. C'est pas ça qui m'intéressait, c'était les plantes qui m'intéressaient. Alors je me suis dirigé vers les tropiques parce que je sais que c'est là que les plantes sont à leur maximum de diversité et de beauté.
À 21 ans, vous devenez chercheur en Côte d'Ivoire pour préparer votre thèse de doctorat sur les rubiacées, famille du café, thèse que vous soutenez en 1966 à Abidjan. Mm-hmm. Et donc vous vivez en Afrique à partir de ce moment-là.
Oui, mes enfants sont nés là.
C'est ça, à une époque où c'est plutôt assez marginal de choisir de vivre dans ces pays-là. En tout cas, vous êtes dans cette biodiversité inouï. Et vous faites à ce moment-là une découverte capitale sur l'architecture des plantes.
Oui.
On peut revenir un peu là-dessus, s'il vous plaît.
Je raconte volontiers cette histoire. Ouais. Parce que quand on suit des cours de botanique à la Sorbonne, on nous dit que pour identifier une plante, pour savoir ce qu'elle est, il faut des fleurs ou des fruits. Bon, très bien, c'est ce qu'on appelle la botanique linnéenne, celle de Linné. J'arrive en Afrique, je visite une forêt équatoriale, pas de fleurs, pas de fruits. À la limite, quelques fragments... des miettes sur le sol, mais je ne sais même pas de quel arbre ça tombe. Je me suis dit, mais alors c'est foutu, on ne peut pas mettre un nom sur ces arbres. Je ne sais même pas s'ils ont un nom, parce que ce n'est pas marqué dessus.
Ouais.
Et je dois dire que j'ai été énormément aidé par un chef baoulé, un village du centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a débloqué la situation. Je lui dis, chef, qu'est-ce que c'est que ce grand arbre qu'on voit là? Ah ben, il me dit, c'est un tiama. Mais je lui dis, chef, comment vous savez que c'est un tiama? Vous avez vu ses fleurs et ses fruits? Et là, il s'est mis à se marrer. Il m'a dit, les fleurs du tiama, mais j'en ai rien à foutre. Je ne sais même pas si ça produit des fleurs. Mais enfin, il me dit, tu vois bien que c'est un tiama. Là, il y a un abalé, là, il y a un moabi. Tu vois bien qu'ils ont... ils se ressemblent pas. Alors, j'ai compris que dans les régions tropicales, où je travaillais dorénavant, mettre un nom sur une plante, c'était regarder sa forme.
Donc, Linné avait complètement évacué ça? Il l'ignorait ou il s'était plus intéressé aux fleurs, précisément, qu'aux arbres?
Uniquement. Ouais. Attends, ce qu'ils appellent, encore maintenant, une plante qu'on appelle stérile, qui n'a pas de fleurs, on peut marcher dessus, c'est pas grave.
Ça devient votre spécialité,
Oui, tout à fait.
La botanique tropicale, avec cette discipline. Du coup, vous avez une liberté folle, parce que personne n'est sur le coup. Vous êtes le premier arrivé, il faut défricher, et donc ça vous laisse un champ d'action extraordinaire.
J'ai eu quelques très bons collaborateurs, notamment mon ami Oldeman de l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Ouais. On a travaillé ensemble, et on a trouvé 24 manières de pousser pour les arbres.
24
voilà. 24.
Est-ce qu'il y en aurait d'autres à découvrir aujourd'hui, sans doute?
Peut-être un ou deux. Ça va sûrement pas doubler le nombre, parce qu'on a tellement cherché dans les coins les plus reculés de la planète.
C'est ça.
Mais enfin, on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache quelque part et qu'on n'a pas vu.
24,
c'est sûr.
Façon différente de pousser.
C'est très peu pour pas loin de 100 000 espèces d'arbres.
Ouais. Ensuite, vous partez au Zaïre, Francis Allais. Vous décrivez un pays très dur avec des conditions de vie sommaires et vous faites l'expérience du sentiment océanique. J'aime beaucoup l'expression, ça veut dire quoi?
Ah, c'est une chose extrêmement étrange. J'aimerais d'ailleurs en savoir plus moi-même. Ça vous tombe dessus sans qu'on puisse contrôler. Il faut être près des arbres ou de la forêt et bien, enfin, sans problème particulier. Et tout d'un coup, on voit la forêt se rapprocher, elle devient lumineuse, elle devient magnifique, une espèce de basculement poétique. Et alors, en même temps, il n'y a plus de limite entre la forêt et moi. J'en fais partie. Et ça, tous ceux qui l'ont décrit le disent. Il n'y a plus de limite, on est un élément de la nature, et bizarrement, là aussi, il y a un consensus absolu, ça fait extrêmement plaisir, et c'est un bonheur qu'on garde toute sa vie.
Et pourquoi océanique, alors, puisque vous décrivez...
Non, le terme n'est pas bon, c'est Romain Rolland, je crois. Ben parce que ça veut dire immense.
Immensité, oui. Sans horizon, quoi, finalement.
Non, oui, c'est ça.
Ouais. Et ça, vous l'éprouvez au bord du fleuve Congo, ce sentiment océanique.
Ouais.
Vous l'avez éprouvé ailleurs ou pas?
Non, une fois.
Ah, juste une fois?
Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'éprouvent pas, mais il y en a aussi beaucoup qui l'éprouvent, mais ils se disent, ça c'est un problème personnel, ça ne concerne que moi, donc je ne peux pas en discuter avec d'autres. J'ai fait la bibliographie là-dessus, et il y a pas mal d'écrivains de grands talents qui l'ont eu.
Et donc ça, c'est vraiment ce sentiment d'appartenir, de faire partie du milieu végétal dans lequel vous êtes. Ça doit être extrêmement étrange, non?
Oui, c'est tout.
C'est agréable?
Ah, c'est passionnant, c'est un bonheur. Encore maintenant, je le ressens, ce bonheur.
C'est, rien que d'y penser, de repenser à cette expérience.
Ah, mais je ne peux pas l'oublier.
Vous avez encore en vous ce sentiment océanique. Et donc ensuite, vous revenez en France avec votre famille, votre femme Odile, vos enfants. Vous vous installez à Montpellier.
Mais alors, les questions scolaires pour les enfants.
Oui, c'est ça. Sauf que les tropiques, ça va vous manquer, à vous et à toute votre famille, c'est ça?
Ça m'a beaucoup manqué. Mes enfants qui avaient l'habitude de changer de pays, je me rappelle un soir d'hiver à Montpellier, il faisait gris, il faisait froid, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce pays? On ne va pas rester là tout de même.
Ouais, c'était la France, hein, ce pays, c'était Montpellier. Pourtant, ce n'est pas le pays le plus froid, a priori, Montpellier.
Non, mais ils n'en avaient pas vraiment la connaissance suffisante.
Les tropiques, c'est le paradis des enfants et des botanistes. Ça tombe bien pour embarquer sa famille. Et votre vie, qui a été une vie de voyage quand même, Francis Allais, une vie de voyage de terrain d'observation in situ. Quand on voit le nombre de pays que vous avez traversés, hein, Indonésie, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Galapagos, Amérique centrale, évidemment, Amazonie. Est-ce que toutes les forêts tropicales se ressemblent? C'est une question que je me posais, ça.
Oui, elles se ressemblent, mais le paradoxe, c'est qu'elles sont complètement différentes. Ce n'est pas les mêmes plantes, ce n'est pas les mêmes animaux.
Mais
tout est différent.
Extérieurement, on pourrait... Ah, ce serait compliqué pour vous. Je vous montrerai deux photos d'une forêt amazonienne ou d'une forêt indonésienne. Par exemple, vous auriez du mal à...
Ça dépend du degré de précision de la photo, mais l'impression qu'on a est la même.
Oui.
Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que... C'est ce que j'aime bien dans le métier de botaniste, c'est qu'on est perpétuellement débutant. Je change de continent, je repars à zéro.
Oui.
Il n'y a plus rien à quoi je puisse me raccrocher.
Le radeau des cimes, j'en parlais tout à l'heure en ouverture, 1986, vous qui en êtes le co-inventeur, cette sorte de toile d'araignée géante déposée au-dessus des arbres au moyen d'un ballon dirigeable. On va écouter Francis Allais, cet extrait de l'émission Ushuaïa en 1990.
Sur le radeau qui vole à quelques mètres seulement de la voûte végétale, le pilote et un scientifique guettent au travers du filet une zone relativement plate et assez dense pour poser l'étrange engin. L'observatoire scientifique est en place, à la disposition des chercheurs arrivés au pas de charge, 30 mètres plus bas.
Et donc grâce à ce dispositif, vous allez pouvoir observer avec vos collègues scientifiques la canopée, le cœur vivant de la forêt. Ça, on ne le connaissait pas avant le radeau des cimes, la cime des arbres,
si,
vraiment.
Si, alors malheureusement ça s'est mal terminé pour beaucoup d'entre nous, des biologistes y grimpaient.
Oui.
Avec des cordes, et il y a eu pas mal d'accidents mortels d'ailleurs. L'avantage là, c'est qu'on ne leur demandait pas d'être des athlètes, n'importe qui pouvait venir sur le radeau.
Ça. Il y avait un grand filet
maintenait. Il fallait être amarré tout de même, parce qu'on ne peut pas savoir si les branches qui sont dessous sont solides ou pas.
Mais c'est quand même une façon d'observer la canopée qui est assez nouvelle, en tout cas,
qui permet des observations
qu'on ne pouvait pas faire
auparavant. Et puis des chasses aussi, on peut attirer les animaux, ça a été 30 ans de travail.
Ouais. Et vous avez dessiné aussi,
beaucoup.
À la cime des arbres, vous emmeniez comme ça votre matériel
surtout là.
Et peindre, parce que vous aviez le meilleur des postes d'observation, finalement.
Ouais, c'est là qu'on a vu, qu'on a vérifié que les arbres n'étaient pas des individus, mais des colonies, comme du corail.
Oui.
Voilà.
Et le radeau des cimes, c'est 30 ans, avec une interruption, et, vous me disiez ça juste avant l'émission, peut-être un retour du radeau des cimes.
Je suis très content de vous apprendre ça.
Ben oui. C'est un scoop.
C'est un scoop, oui. Et puis, à mon avis, on ne va pas les arrêter de sitôt. Ils sont extrêmement passionnés, et en plus, c'est des grimpeurs d'arbres, et c'est des gens qui sont très, très à l'aise en forêt.
Et qui sont-ils, alors, ces gens dont
alors,
vous parlez?
La présidente de l'association, c'est une Lyonnaise.
Oui.
Et voilà, son association s'appelle Horizon Canopée.
Et donc, ça va repartir dans quelle forêt, d'ailleurs, ils vont commencer, a priori?
Alors,
est-ce que vous avez une idée?
Ils vont commencer au Costa Rica, ce qui est un très bon choix, parce que les plantes épiphytes qui poussent sur le haut des arbres au Costa Rica, c'est une merveille.
Vous y êtes allé
déjà? Et les oiseaux également.
Avec le radeau des cimes, au Costa Rica, vous avez passé du temps là-bas. Mais il est où, le radeau des cimes, là, aujourd'hui? Parce que c'est un nouveau radeau qu'ils vont mettre en place, ou c'est l'ancien qu'ils vont...
Non, ils vont abandonner complètement cette technique-là, et ils vont en trouver une autre.
Ah. Et vous avez vu un petit peu le projet ou pas?
Il faut que j'aille à Lyon, que j'aille voir ça.
Et alors, il est où le radeau des cimes, là, en ce moment?
Le vieux radeau, il est en train de pourrir sous un hangar, mais il est...
C'est triste comme histoire, non?
Mais non, mais on ne peut pas éviter ça. 30 ans de travail sous le soleil de l'Équateur, on passe la main au travers de la toile du dirigeable.
Ah oui. Donc il avait besoin d'un petit peu de repos quand même, ce radeau des cimes.
Repos ne suffise pas.
Qu'est-ce qu'il a permis comme découverte, s'il fallait faire une espèce de bilan, Francis Allais, de ces 30 années de radeau des cimes? Qu'est-ce qu'on retient?
D'abord des millions d'espèces nouvelles. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Ils n'ont même pas fini de trier nos récoltes dans le domaine des insectes.
Ouais.
Non, le plus important...
Et il faut les nommer en plus, il faut nommer tout ça. Donc,
oui.
Sacré boulot.
Et le plus important pour moi, c'est le fait qu'il y ait plusieurs génomes dans le même arbre. Ça a été démontré grâce aux analyses faites sur un même arbre autour du radeau.
Ça veut dire qu'on peut presque considérer plusieurs individus...
ces arbres sont des colonies.
Voilà. C'est ça, oui. Ça, c'est la grande découverte du radeau des cimes, selon vous?
Il y en a une autre très importante aussi, c'est que... Les molécules utilisables en médecine, les molécules actives, elles ne sont pas en bas. Or, jusqu'à présent, on les cherchait en bas. Les collègues se déplaçaient sur le sol, ils prenaient des feuilles, ils faisaient le test. Non, aucun intérêt. Alors, on a démontré que laissons la plante grandir, et quand elle est dans la canopée, elle est bourrée de principes actifs.
Pour faire potentiellement des médicaments, ensuite?
Peut-être, oui, ça c'est pas mon métier, mais on a eu des gens qui sont venus faire
ça. C'est une richesse et un intérêt fou, en tout cas.
Parce que c'est facile à comprendre, les prédateurs sont en haut.
Donc c'est contre les prédateurs qu'il importe de se prémunir dans la canopée. Et leur manière de se défendre des prédateurs, c'est des molécules très, très coûteuses, très, très complexes et très toxiques.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Plus d'une espèce d'arbre sur trois est en danger d'extinction dans le monde, selon un nouveau rapport de l'Union internationale de la conservation de la nature, UICN, en pleine COP16 sur la biodiversité en Colombie. L'organisme a publié la liste des variétés menacées. Nous avons évalué le statut de la majorité des espèces d'arbres dans le monde, soit environ 47 000 espèces, et parmi elles, 1 sur 3, soit 38%, est menacé d'extinction. De nos jours, le nombre d'espèces d'arbres en voie de disparition est deux fois plus que celui des oiseaux, des mammifères, des reptiles et des amphibiens réunis, selon l'UICN.
Un extrait d'Africa News le 28 octobre dernier. Francis Allais, vous qui êtes notre invité, quand on entend ces chiffres, hein, un tiers donc des espèces menacées d'extinction. Dans les années 60, lorsque vous vous installiez en Afrique, les forêts tropicales, elles semblaient invincibles. Il n'y avait pas de soucis.
Il y en avait partout. Il y avait des forêts primaires partout.
Et donc, en 60 ans, vous avez vu ces forêts disparaître sous vos yeux à grande vitesse.
Oui.
Vous avez vraiment
changé. Dans la durée de mon existence.
Et comment on peut lutter alors contre le pillage, le saccage de la forêt, et en quoi il faut absolument les maintenir, ces forêts, aujourd'hui, à votre avis? Il y a deux questions.
Les gens qui exploitent la forêt, ce n'est pas les gens du pays. Les gens du pays le font un peu, mais ce n'est absolument pas destructeur. Par contre, les grandes sociétés internationales d'exploitation des bois, c'est ceux-là qui font des ravages.
Et ça, vous les avez vus passer avec leurs camions dans les forêts, où que vous soyez.
C'est horrible. Pour moi, c'est un espèce de viol. Et ils ont très bonne conscience. Ils disent, mais on ouvre des routes, donc on développe. Il y a une phrase de Jane Goodall que j'aime beaucoup. Quand une œuvre d'art est détruite, on parle de vandalisme. Et quand la nature est détruite, on parle de développement.
Jane Goodall, qui était à votre place la semaine dernière.
Oui, mais elle m'a invité à déjeuner. J'aime beaucoup.
Et donc, il y a urgence à stopper la destruction des forêts.
Oui, mais quand
là, les chiffres sont effrayants.
La disparition des arbres, je suis un peu sceptique. Parce que plusieurs fois déjà, on nous a dit, telle espèce, elle a disparu. Sauf que 4 ans après, on la retrouve à un autre endroit.
Donc il y a une capacité quand même, on va dire...
C'est très difficile d'affirmer qu'une espèce végétale a disparu.
Mais toutes les forêts du monde sont en état d'urgence aujourd'hui, selon vous ?
Non, je pense pas. Non.
Alors, quoi on voit qu'une forêt, d'ailleurs, est gravement...
Elle régresse.
Ouais.
Et elle laisse des espèces de brousses inutiles et inutilisées. Et c'est horrible. La planète s'abîme. Elle devient laide à cause de ça.
Vous dites que pour éviter le pillage ou le saccage, il faut d'abord lutter contre le gaspillage du bois.
Oui, c'est vrai.
On en gaspille beaucoup aujourd'hui ?
On en gaspille beaucoup. Il n'y a qu'à voir autour des
scieries. C'est pas une notion qu'on prête à la forêt, ça, le gaspillage du bois.
C'est pas la forêt qui gaspille, c'est nous. C'est les coupeurs de bois. Oui, ça, il y a des gaspillages.
Mais vous dites que vous n'êtes pas opposé à la coupe du bois, hein, c'est ce que vous disiez.
Mais on a forcément besoin de bois. On ne peut pas s'en passer, on ne pourra jamais s'en passer, je crois. Mais simplement, il ne faut pas taper dans des forêts naturelles, il faut faire des plantations. Si on a besoin d'un légume, on le cultive. Si on a besoin de bois, on les cultive.
Francis Allais, vous avez passé votre vie à essayer de sauver les arbres. Est-ce que vous considérez avoir échoué sur ce front, alors, après 60 ans dans la
forêt ? Compliqué. Oui, j'ai échoué, parce que la déforestation de la planète, elle n'a jamais été si grave que maintenant. Et ça s'accélère. Mais ce n'est pas perdu, parce que un point très important, c'est que maintenant, les arbres et les forêts, ça devient un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière.
Et de résistance, hein, d'ailleurs.
Oui, absolument. Les abattages d'arbres dans les villes, les gens ne sont plus du tout d'accord, et ils le montrent bien. Les abattages de forêts, il y a des femmes qui s'attachent aux arbres pour qu'on ne puisse pas les couper, etc. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 30 ou 40 ans.
Des femmes ou des hommes, parce qu'on voit des militants partout, risquent même leur vie. En France aussi,
je vois l'autoroute
A69, par exemple, où ça devient vraiment dangereux.
Thomas Brel, c'est terrible, je suis furieux contre ça, parce que c'est le préfet qui les fait attaquer, qui les empêche de dormir en faisant du bruit la nuit, qui les empêche de se nourrir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils sont pas coupables, ces gens, ils sont juste pas d'accord. Mais alors, on torture les gens qui sont pas d'accord maintenant, c'est monstrueux.
Mais ils s'opposent à des intérêts financiers aussi, très forts. Hein, parce oui. que construire une autoroute, ça rapporte beaucoup d'argent.
Mais je sais bien, donc, c'est pas compliqué. Pourquoi?
Et alors, ces militants qui risquent leur vie justement pour défendre les arbres, on peut quand même considérer que les choses sont en train de bouger et que ce sont quand même des signaux.
J'ai l'impression.
Positifs par rapport à la relation qu'on a aussi
Thomas
à la forêt.
Brel, vous voyez qui c'est.
Bien sûr.
Il a fondé le GNSA, il est peut-être venu ici.
Il est venu ici plusieurs fois, Thomas Brel.
Le GNSA, ouais. Voilà un truc extrêmement utile et c'est dans tous les départements français.
Ouais.
Et ils n'arrivent pas à satisfaire à toutes les demandes parce qu'il y a des attaques contre les arbres partout.
Le 7 décembre prochain, Francis Allais sera inauguré la réouverture de Notre-Dame de Paris. 1000 chênes ont été abattus dans toute la France pour le chantier de reconstruction de sa charpente. Et je crois que ça vous a indigné à l'époque.
Excusez-moi, je trouve ça dégueulasse. Parce que c'était des beaux chênes vivants. Comme on tue des êtres vivants, juste... Alors attends, si c'était visitable, cette charpente, si on pouvait le voir, à ce moment-là, ok, je trouve que c'était bien, que ça ressemble à la charpente d'avant, et ça aurait un peu justifié que ça soit en chêne. Mais c'est pas visitable. Donc il fallait prendre des matériaux nouveaux, beaucoup plus légers et pas inflammables.
Alors c'est Emmanuel Macron qui fera d'ailleurs le discours pour cet événement à Notre-Dame, le président de la République, très sensibilisé à la question des arbres, comme en témoigne cette annonce l'année dernière au micro d'Hugo Décrypte.
Je veux que dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des sixièmes, mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement. C'est hyper important pour la Sainte-Catherine.
Voilà, bah, il aime les arbres, le président de la République.
Non.
Ah bon ?
Non.
Un milliard d'arbres, c'est formidable.
Mais c'est ridicule. En plus, un quart d'heure après, il l'avait déjà oublié, tout ça. On a été nombreux à lui écrire en disant « Ok, on joue le jeu, on va aider les enfants à planter des arbres. Mais il faudrait nous aider, il faudrait qu'il y ait des jeunes arbres. » Il l'avait oublié. Tout ce qu'il sait faire, c'est parler, lui.
Et un milliard d'arbres, ce serait intéressant, vraiment, sur le papier, en tout cas, pour... ou c'est pas ça le fond du problème, en fait.
C'est pas ça le fond du problème, pas du tout. Parce qu'on plante et on ne s'occupe pas plus des jeunes plants, et généralement la mortalité, elle dépasse les 50%. Il serait beaucoup plus intelligent de semer. Semer. Alors évidemment, sur le plan politique, c'est pas très payant parce que...
Ça prend du temps.
Non, c'est beaucoup plus rapide.
Ah bon ?
Mais oui.
Non, semer un arbre, c'est plus rapide que de mettre...
On met un jeune
mettre...
plant et on sème la graine de la même plante. 3 ans après, le plant, s'il est pas mort, parce que souvent il est mort, il est largement dépassé par la plante semée, parce que ses racines sont intactes. C'est une question de racines. On ne peut pas déplacer un plant d'arbre sans abîmer ses racines, et beaucoup ne s'en remettent pas.
Et sauf qu'on voit que les arbres les plus anciens sont les plus efficaces aussi, en tant par exemple que puits de carbone, que de jeunes pousses. C'est pour ça aussi qu'il faut préserver la forêt avant d'imaginer replanter de nouvelles pousses qui n'auront jamais le même rôle que les anciens.
On est envahi par les fake news. Hein. On nous a dit que les vieux arbres, ça ne fixait plus le gaz carbonique. C'est ridicule. C'est terrible de dire ça. En fait, c'est le plus efficace. C'est juste une question de surface foliaire cumulée.
Où est-ce que vous en êtes, Francis Allais, de ce projet de faire revivre une forêt primaire au cœur de l'Europe? Alors, on en avait parlé aussi avec vous il y a quelques temps sur cette antenne, donc on a envie de suivre un peu le projet. 70 000 hectares, c'était l'idée.
70 000 hectares, c'est imité de la forêt de Białowieża en Pologne.
Ouais.
70 000 hectares, parce qu'il nous faut la grande faune de la forêt primaire européenne. Elle est à Białowieża, donc on a imité.
Seule forêt primaire aujourd'hui d'Europe, à peu près?
La seule,
oui. Ouais. Ouais, donc l'idée, ce serait d'en recréer une autre.
D'en recréer une autre, parce que celle de Białowieża, elle est terriblement menacée. C'est une zone de guerre maintenant. Ils ont construit des murs au travers pour gêner les migrants. Enfin bon.
Ouais. Et vous l'avez trouvé le terrain ou pas? 70 000
Alors,
hectares.
Le gouvernement français nous a orientés vers les Ardennes et vers les Vosges.
Donc vous êtes allés?
Oui.
Et alors?
On y était allés avant d'ailleurs.
Ouais. Et vous,
et
vous,
on a
vous
trouvé sans difficulté les surfaces qui nous conviennent.
Donc ça y est, c'est signé, c'est fait, c'est...
Non, c'est pas signé.
Ah, voilà. Pourquoi?
Ben, parce qu'il y a des blocages politiques, on en parlait il y a un instant. Le Rassemblement National ne veut pas entendre parler d'écologie forestière, d'écologie tout court d'ailleurs. Voilà.
Donc au niveau des Ardennes, c'est là que ça bloque. Hein.
Mais les Vosges, c'est plus facile. Ouais. Mm-hmm. Et puis les Allemands et les Belges sont très accueillants. Oui. Ça les intéresse beaucoup.
Donc là, c'est le Rassemblement National qui pose des problèmes pour la création de cette forêt primaire. Vous avez bon espoir quand même que ça puisse se résoudre ou pas? Ou il faudrait trouver un autre terrain ailleurs?
Ah non, on ne va pas bouger. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on nous fait des menaces comme ça qu'on va céder. Non, on s'installe. On a ouvert des bureaux dans les...
Ah oui, attention. Oui,
non, mais on ne cherche pas la confrontation directe. On va simplement faire notre boulot, prévenir les gens, expliquer ce qu'est une forêt primaire, etc. Ouais.
Une forêt en libre évolution.
En libre évolution.
Ouais. Et c'est ça qui est difficile à faire admettre. Hein. C'est,
pourquoi?
C'est de laisser la forêt tranquille.
C'est pourtant de pas l'exploiter. Mais l'être humain, il est terrifiant parce qu'il s'imagine qu'il connaît la forêt mieux que la forêt ne se connaît elle-même. C'est ridicule, nous, on est les derniers dans l'évolution.
Donc il faut foutre la paix à la forêt, en fait.
Voilà. Hein. Et aux arbres.
Apprendre à ne rien faire.
Et oui, c'est un problème pour beaucoup d'entre nous, les forestiers.
Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous appliquez à vous-même, apprendre à ne rien faire, Francis Allais, vous qui, à 86 ans, n'arrêtez pas encore et continuez tout le temps à militer pour la forêt?
Oui, je travaille beaucoup, mais je fous la paix aux arbres et aux forêts. Ça, personne...
Ben heureusement. Mais vous avez toujours envie de continuer à militer?
Militer, je ne sais pas si c'est le terme, mais effectivement, Je constate qu'il y a une prise de conscience globale de l'intérêt des arbres et des forêts, donc c'est pas moi qui vais aller contre.
Quoi ce projet Corse dont vous vouliez nous parler avant de se
quitter? Ah oui, ça m'intéresse d'en dire un mot.
Oui, s'il vous plaît, c'est quoi?
Je fréquente la Corse depuis longtemps parce que c'est un pays que je trouve magnifique. Il n'y a pas de jardin botanique. Il y a des collections privées, magnifiques d'ailleurs, et on peut se faire inviter. Mais ce n'est pas un jardin botanique, c'est les palmiers ou les graminées ou des choses comme ça. C'est un groupe.
Et donc vous allez travailler là-dessus?
Non, alors moi j'ai approché l'administration corse et ils ont mis à notre disposition un magnifique terrain au-dessus de Ajaccio, la Punta ça s'appelle. Mm-hmm. Magnifique terrain, et là on peut faire pousser tout ce qu'on veut.
Et ça sera ouvert quand alors?
Alors, on attend la signature de l'administration corse. On ne peut rien faire sans.
Très bien. Bon, ben, on va les inciter à se dépêcher, alors, pour qu'on puisse en profiter, peut-être, pour ceux qui ont la chance
puis ça va aller assez vite,
d'être en Corse ou d'y aller.
Ce n'est pas comme la forêt primaire, ça.
Merci beaucoup, Francis Allais. Je renvoie sur La beauté du vivant. C'est chez Actes Sud, avec vos dessins, hein, textes et dessins, et puis également Plaidoyer pour l'arbre, qui ressort aussi chez Actes Sud. Il y a plein de choses, La vie des arbres aussi chez Bayard. Bref, si on aime Francis Allais, il y a de quoi se renseigner, se cultiver, et surtout en apprendre plus sur les arbres et la forêt. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir été aujourd'hui notre invité au carré.
Merci Mathieu, ça me fait grand plaisir.
Et on termine l'émission, comme tous les jours, avec le répondeur et vos messages.
Bonjour, c'est Isabelle, j'habite à Chatou. J'avais envie de témoigner suite à l'émission sur le vélo, parce que moi j'avoue que le vélo a changé ma vie. Il y a 10 ans, j'ai voulu prendre mon vélo pour aller travailler. Je travaille à une douzaine de kilomètres de chez moi. Je l'ai fait au début pour des raisons économiques. Après, je me suis dit, ça sera bon pour ma forme et finalement aussi pour l'écologie. Bon, maintenant, 10 ans après, je continue à faire mon vélo. C'est devenu vraiment une philosophie de vie, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller faire mes courses au supermarché. Je fais mes courses au jour le jour avec mon vélo et j'ai vendu ma voiture. Et mon mari a la sienne, je suis très bien comme ça. Voilà pour mon témoignage. Au revoir.
Oui, c'est Michel de La Rochelle. Je suis étonné que vous n'ayez pas parlé de La Rochelle et de l'initiative de Michel Crépeau dans les années 70, avec le premier vélo jaune qu'on a même retrouvé à la frontière belge. Mais Michel Crépeau disait « chaque vélo qui est volé me fait de la pub pour la ville ». Aujourd'hui, La Rochelle est reconnue comme un laboratoire de l'écologie urbaine, y compris avec la première journée sans voiture, et puis les premières voitures électriques aussi. Merci beaucoup.
Oui Marie, bonjour, Matt de Paris. J'ai été absolument scandalisée par les réflexions de votre défenseur du vélo concernant la relation vélo-piéton. J'ai quand même entendu, la vitesse est responsable pour les vélos comme pour les autos, diminuons la vitesse des autos et on ira mieux en vélo. Tout le monde peut faire du vélo en ville. C'est pas vrai. Quand on a 80 ans, 90 ans, on fait pas du vélo en ville. Quand on se fait engueuler par des vélos qui ne respectent pas le code de la route, qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, qui déboulent d'une rue en sens inverse du sens unique, on est un peu surpris. C'est absolument inadmissible d'être aussi peu ouvert aux relations vélo-piéton, parce que les piétons, c'est aussi important que les vélos, surtout quand ils ont un certain âge. Je vous remercie.
Bonjour les auditorices, c'est Jérôme de Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique. Bon, ici, la terre est bien au carré, hein. Sous nos pieds, des sols bien nettoyés, des grandes surfaces agricoles, bien souvent sans l'ombre d'un arbre. Alors, on a décidé de se retrousser les manches, de réunir tous les acteurs du territoire et de faire une grande fête. La semaine de la haie, qui va se dérouler du 16 au 23 novembre dans la vallée maraîchère, à l'est de Nantes et dans le vignoble nantais, ben c'est une belle fête parce qu'il y aura notamment des plantations participatives. Tous les atouts de la haie pour la biodiversité, la qualité des sols, la qualité de notre eau, les retombées économiques. Alors préparez vos bottes pour cette semaine de la haie, nous on s'occupe du reste. À bientôt.